aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ozoui, ce qu'on dit les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous, Erwan Lestrohan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études au département opinion de l'Institut BVA. 3 mois de contestation sociale en France, 3 mois précisément aujourd'hui qu'est apparu le mouvement des Gilets jaunes. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux, beaucoup moins nombreux que le 17 novembre, mais présents tout de même, manifestaient aujourd'hui, notamment à Paris. Hier aussi, comme tous les samedis, il y avait eu des manifestations non exemptes de violence. Violence physique avec le caillassage d'un fourgon de CRS à Lyon et des images filmées de l'intérieur par un policier qui font le tour des réseaux sociaux. Violence avec la permanence du député de la Sarthe, Damien Pichereau, de La République En Marche, qui a été saccagé. Violence verbale aussi avec la prise à partie du philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Là aussi, il y a des vidéos qui témoignent de l'incident, Romain.
Les vidéos que l'on fait tourner actuellement, Philippe, on y voit sur cette vidéo Alain Finkielkraut sur un bout de trottoir et non loin de lui des insultes qui fusent de la part d'hommes habillés en gilets jaunes. Je cite notamment « Barre-toi, sale sioniste de merde ». Des propos qui ont provoqué un torrent de réactions et d'indignation. Voilà la situation de la France aujourd'hui, selon le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, invité de France 3 ce dimanche.
Ce qu'on voit là, c'est l'islamo-gauchiste qu'ont laissé s'installer les partis politiques depuis 20 ans dans notre pays. Ce qu'on voit là, c'est ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, où plus un juif peut se promener avec sa kippa. C'est ces pseudos antiracistes qui nous traitent toujours de racistes parce que on le traite de fasciste comme on me traite parfois de fasciste. C'est-à-dire des gens qui ont le haut du pavé, qui ont été défendus par tous les partis depuis tant d'années dans notre pays.
La droite de la droite, donc à l'image de Nicolas Dupont-Aignan, qui dénonce un islamo-gauchisme derrière l'incident qui a touché Alain Finkielkraut hier. L'exécutif, de son côté, pour le moment, refuse de désigner les coupables, s'alarmant d'abord sur la montée de l'antisémitisme. Ces injures sont la négation absolue de ce que nous sommes, écrivait hier soir sur Twitter Emmanuel Macron, le chef de l'État. Dans le même ton, les mots du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, ce dimanche sur RTL.
Quand on insulte un juif, on insulte et on attaque la République. Ce que j'aurais aimé, c'est que quand on regarde la vidéo hier où Alain Finkielkraut est insulté, qu'il y ait des gens qui portent un gilet jaune qui se mettent entre eux. Je trouve la foule bien silencieuse.
Alors, justement,
bien silencieux.
Voilà, Benjamin Griveaux qui s'interroge à travers ses mots aujourd'hui sur la cohérence de ce mouvement des Gilets jaunes, après donc les violences verbales dont Alain Finkielkraut a été victime hier. À droite, Éric Ciotti va plus loin pour le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Eh bien, il faut tout simplement que ce mouvement des Gilets jaunes s'arrête.
Aujourd'hui, je dis que ce mouvement doit arrêter ces blocages, ces manifestations. Il y a des voies de revendication. 14 samedis de violence, c'est beaucoup, c'est trop. Je demande qu'on interdise les manifestations samedi prochain. Il y a le grand débat, donc que ceux qui veulent exprimer leur voix dans ce grand débat le fassent, mais justement c'est le moyen de s'exprimer.
Il faut tourner la page des Gilets jaunes, l'heure est au grand débat pour Éric Ciotti qui s'exprimait sur France Inter ce dimanche. Ce n'est absolument pas l'avis de Manuel Bompard, directeur de campagne La France Insoumise pour les élections européennes. Il estime lui au contraire que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui est toujours aussi légitime.
Qu'il y ait 10 personnes qui sont non seulement des abrutis, mais en plus des personnes qui se livrent à des actes qui sont condamnables et qui sont sous le coup de la loi. Encore une fois, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Bon, ça n'enlève rien au fait que 99,99% des gens qui se mobilisent aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes, ils le font pour des revendications de justice sociale, de justice fiscale, de démocratie.
Emmanuel Bompard défendant le mouvement des Gilets jaunes ce dimanche sur Radio J, les injures antisémites dont Alain Finkielkraut donc a été victime interviennent alors que jeudi 14 partis politiques dont La République En Marche, Les Républicains ou encore le Parti communiste ont signé un appel à l'union contre l'antisémitisme, tous appel à des rassemblements mardi à Paris et ailleurs en province.
Les faits antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier, passant de 311 en 2017 à 541 l'année dernière, après 2 années de baisse, selon le ministère de l'Intérieur. Votre institut BVA, Erwan Lestrohan, s'est penché sur ce phénomène avec la réalisation de son eurobaromètre. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Alors c'est directement réalisé par l'Union Européenne, hein, pas par BVA. C'est vraiment une étude qui est menée dans les 28
28 pays membres de l'Union européenne, qui est sorti en juillet 2019 et qui a été mené en décembre 2018 sur la question de la perception de l'antisémitisme en Europe. C'est-à-dire qu'on interroge des gens dans chaque pays pour pouvoir comparer pays à pays le contexte sur cette question de l'antisémitisme. Et quand on dit aux répondants « il y a un problème avec l'antisémitisme dans votre pays », la moyenne des pays de l'Union européenne, c'est 50%. La moyenne pour la France, c'est 72%. Donc on est quand même un vrai cran au-dessus. Et quand on demande « avez-vous le sentiment qu'au cours des 5 dernières années, l'antisémitisme a augmenté dans votre pays », on est à 51% pour la France, on est à 36% pour la moyenne de l'Union européenne. Donc il y a ce sentiment des Français d'une recrudescence et d'un problème avec l'antisémitisme, mais on le mesure aussi pour la haine religieuse, pour la haine raciale. On a vu le poids aussi des injures sexistes, des injures homophobes, mais il y a vraiment une montée de ces tensions.
Et qu'est-ce qui favorise, quelles sont les explications, s'il y en a, à cette montée de l'antisémitisme?
Alors, c'est vraiment une perception qui est du domaine de l'inconscient, donc c'est assez difficile à mesurer dans un sondage et attribuer différentes causes. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête, et c'est là où c'est préoccupant, c'est que cette montée de l'antisémitisme se situe dans un contexte de montée de la défiance à l'égard de l'égalité sociale. Et c'est vrai que c'est ce contexte-là d'inégalité sociale avec une progression de l'antisémitisme qui est un peu préoccupant, dont on ne peut pas deviner grand-chose des convictions des Français et de la source de cet antisémitisme, mais qui est vraiment préoccupant.
Concernant le mouvement des Gilets jaunes à proprement parler, pour hier, le ministère de l'Intérieur a dénombré 41 500 manifestants dans tout le pays, soit près de 20 000 de moins qu'il y a deux semaines. Une majorité de Français, 52%, estime que ce mouvement doit cesser. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP pour le JDD. Ils étaient 37% à penser la même chose un mois plus tôt. ABVA, est-ce que vous constatez ce même genre de désaffection, Erwan Estrohan?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un vrai reflux du soutien au mouvement et surtout du soutien aux mobilisations. Parce qu'en fait, la semaine dernière, on mesurait que 9% des Français se disaient eux-mêmes gilets jaunes, 48% se disaient sympathisants des gilets jaunes. Ça fait un soutien global de 57%. C'est 15 points en dessous ce qu'on a pu mesurer au plus fort du soutien des mobilisations. Mais dès le début, il y avait une différence de soutien dans ces mobilisations entre les revendications qui étaient très fortement soutenues par 7 Français sur 10, mais les modes d'action qui étaient soutenus par uniquement moins d'un Français sur 2. En général, ce qu'on observe, c'était le cas notamment avec les manifestations contre la loi travail, c'est que dès qu'il y a des débordements en marge des manifestations, le soutien à un mouvement social s'effrite très vite. Avec les Gilets jaunes, on n'aurait pas eu ce mouvement-là, parce que finalement, le week-end du 1er décembre, où il y a eu beaucoup de débordements, n'a pas érodé le soutien au mouvement. Parce que, très vraisemblablement, dans l'opinion, le combat pour l'égalité sociale est quelque chose de relativement légitime, qui mérite un soutien, et la question des débordements a été traitée à part. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un grand débat national, qui est la possibilité finalement pour ces Gilets jaunes d'exprimer leurs revendications. Donc dans ce contexte, forcément, étant donné qu'il y a un outil disponible, les mobilisations du samedi sont un peu moins soutenues.
Est-ce que vous diriez qu'entre le gouvernement occupé à faire la promotion de son grand débat national pour tenter de sortir de la crise et les manifestants qui dénoncent une consultation de façade, c'est un dialogue de sourds encore aujourd'hui?
Alors c'est un dialogue de sourds, en tout cas ce qu'on peut traduire autour de ce dialogue de sourds, c'est est-ce que le grand débat national est un mode de participation adapté à l'expression des revendications des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui s'est créé un peu de façon spontanée. Parce que le grand débat national, ça reste quelque chose qui est quand même un objet politique non identifié. Aujourd'hui, au moment du lancement du débat, un Français sur quatre nous disait avoir une opinion positive du grand débat, un Français sur quatre une opinion négative, et un sur deux disait qu'attendre de voir ce qu'il en sortirait pour se prononcer. Donc ça reste quelque chose qui est quand même très en suspens. Aujourd'hui, on est à mi-parcours, ça se prolonge jusqu'au 15 mars. On ne sait pas exactement dans quelle mesure le mouvement des Gilets jaunes pourra se dissoudre dans le grand débat national. Pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué, mais les Français souhaitent majoritairement, et même les soutiens aux Gilets jaunes, on l'a mesuré dans un sondage il y a une dizaine de jours, que les Gilets jaunes et leur soutien participent au grand débat.
Erwan Estrohan de l'Institut BVA. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Une ambition qui n'aura duré que 3 semaines, la volonté de Gilets jaunes justement de présenter une liste aux élections européennes. Mercredi, Ingrid Levavasseur a enterré ce projet de l'association RIC, RIC pour référendum d'initiative citoyenne. En revanche, Romain, les partis politiques traditionnels se préparent, eux, bel et bien.
Oui, le scrutin qui s'annonce est tout simplement le plus important depuis 40 ans, a déclaré ce dimanche Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. À droite, on avance ses pions. François-Xavier Bellamy, la très controversée tête de liste du parti Les Républicains, était ce dimanche l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1. Et dans le sillage de la campagne présidentielle d'un certain François Fillon, eh bien, il défend l'austérité.
Ce qui est devant nous, c'est de parvenir à faire mieux avec moins. Et nous pouvons faire mieux avec moins. Évidemment, ça suppose de proposer un plan qui prenne en charge les besoins des Français pour les services publics de proximité qui leur sont nécessaires. Mais ça suppose bien sûr aussi de prendre en charge le fait que nous n'avons pas, et je le dis aussi comme un trentenaire, nous n'avons pas le droit de vivre sur un État qui s'endette sans cesse et qui dépense chaque année l'argent des générations qui viennent.
L'austérité ou encore la mondialisation, thème prioritaire des élections européennes avancées par le parti Les Républicains. Du côté de la France insoumise, l'objectif affiché est simple, battre la République en marche. Manuel Bompard, directeur de campagne pour les européennes.
À partir du moment où nous on veut faire de cette élection un référendum anti-Macron, il faut battre la République en marche. D'accord. C'est ça l'objectif. Le mouvement des Gilets jaunes a fait vaciller le pouvoir aujourd'hui. Je pense qu'il faut profiter de l'élection pour l'empêcher d'essayer de mettre un terme à la mobilisation. La volonté du pouvoir, d'ailleurs, c'est par l'illusion, en raison de l'abstention d'une victoire électorale, qu'il puisse expliquer que sa politique est majoritaire dans le pays. Donc moi, je souhaite que cette élection soit l'opportunité d'infliger une défaite à Emmanuel Macron.
Voilà l'enjeu des élections européennes pour la France insoumise. C'était Manuel Bompard, invité du Forum Radio J ce dimanche.
Erwan Lestrohan, ces élections européennes, on n'en parle pas beaucoup. Ça semble pas passionner les foules, comme à chaque fois, j'allais dire.
Il y a 6 Français sur 10 quand même dans les enquêtes qui nous disent qu'ils s'intéressent aux élections européennes. Ça devrait remonter à l'approche du scrutin. Là, on est vraiment dans l'avant. Les différentes têtes de liste sont pas encore connues. C'est vrai que c'est un scrutin autour duquel l'intérêt s'intensifiera avec l'arrivée de la campagne officielle.
En tout cas, il y en a certains qui ont déjà jeté l'éponge, puisque la liste Gilets jaunes tourne au fiasco. Ingrid Levavasseur explique que des personnes s'infiltrent dans le mouvement. Certains Gilets jaunes décrivent une ambiance paranoïaque dans le mouvement, les uns soupçonnant les autres d'être des agents masqués de tel ou tel parti politique. Erwan Lestrohan, le mouvement de contestation n'est donc pas parvenu à transformer l'essai, c'est-à-dire à se structurer et à s'accorder sur une incarnation.
Voilà, c'est le problème des mouvements qui se veulent apolitiques et qui veulent devenir politiques. C'est vrai que ça devient très compliqué. C'était le pari de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise et d'Emmanuel Macron avec la République En Marche pendant la campagne présidentielle, de se dire que les choses se constituaient dans des mouvements gazeux en dehors des partis. Mais c'était des mouvements gazeux qui étaient très composés de personnels politiques, finalement, la France Insoumise et la République En Marche. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce mouvement paye son manque de colonne vertébrale sur la question politique, mais paye aussi son caractère transpartisan. On a vu que il y a beaucoup de sympathisants du Rassemblement National et de la France Insoumise qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. On peut imaginer, dans ce contexte un peu transpartisan, qu'il est difficile de définir une ligne commune, et ça explique la friture sur la ligne dès lors qu'il faut se structurer.
Philippe Le Caplain.
La vie politique en France est aussi, à la surprise générale, Alain Juppé qui va rejoindre le Conseil constitutionnel. Et pour ce faire, il démissionne de la mairie de Bordeaux. Autrefois réputé sévère, austère, droit dans ses bottes, l'ancien patron du RPR, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, est apparu très humain quand il a fait son annonce, Romain.
Oui, l'émotion dans la voix, les larmes n'étaient pas loin jeudi. Et puis, les raisons de son départ, un constat cinglant du désaveu politique aujourd'hui en France. On écoute Alain Juppé.
Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Aujourd'hui, l'envie me quitte. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Voilà, le départ annoncé d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux, l'ancien Premier ministre qui, depuis le début de l'année, officiellement ne fait plus partie du parti Les Républicains, mais pour Éric Ciotti, le député, la rupture était consommée depuis bien plus longtemps.
Je crois qu'il avait déjà quitté Les Républicains. De fait, depuis sa défaite à l'élection primaire, qui a été très rude pour lui, voilà, il a pris du champ avec notre famille politique, il en a pris encore plus après l'élection d'Emmanuel Macron. Vous savez, moi j'ai du respect pour Alain Juppé. J'ai plus aimé d'ailleurs cet Alain Juppé dans son parcours du début au sein du RPR, avec des convictions fortes, que la dernière partie dans le soutien quasi systématique.
Donc il ne manquera pas la droite. Alain Juppé devenu quasi marcheur pour Éric Ciotti. Benjamin Griveaux, lui, ce dimanche est revenu sur les mots prononcés par Alain Juppé, et le porte-parole du gouvernement salue une parole libérée.
Je le dis d'autant plus tranquillement que je n'ai pas exactement le même parcours politique dans la même famille politique qu'Alain Juppé. mais chacun peut considérer que c'est quelqu'un qui a une grande expérience de l'État. Et je vais vous dire, dans la période que nous traversons, dans une période où on voit beaucoup de fébrilité dans beaucoup de partis politiques, chez beaucoup de responsables politiques, sur les valeurs qui fondent la République, sur la question des libertés, sur la question de la liberté d'expression, eh bien moi je suis heureux qu'on ait quelqu'un qui a le sens de l'État, le sens de l'intérêt général chevillé au corps, qui fasse son entrée au Conseil constitutionnel.
Alain Juppé, bientôt au Conseil constitutionnel. Donc Benjamin Griveaux, on l'a entendu, s'en réjouit. Ce n'est pas le cas du président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Moi, je suis toujours, inquiet de ces nominations dans des cours de justice d'hommes politiques. Voilà. On a eu M. Fabius, M. Jospin, maintenant M. Juppé. Moi, je crois à la séparation des pouvoirs. Alors après, quand il y aura des décisions juridictionnel, obligatoirement, on dira mais c'est M. Juppé, l'ami de M. Macron.
Voilà, à nouveau la connivence donc entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, souligné par Nicolas Dupont-Aignan ce dimanche.
J'ajoute que le député de la France Insoumise Alexis Corbière rappelle qu'Alain Juppé a été condamné en 2004 à 14 mois d'emprisonnement avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la mairie de Paris. Je suis surpris, dit-il, je crois que le Conseil constitutionnel doit au moins être vierge de toute condamnation. Erwan Lestrohan de BVA, cette nomination n'entache-t-elle pas la classe politique en accréditant la fameuse thèse de l'entre-soi?
Alors, si on prend le problème sous cet angle-là, probablement, ceci dit, Alain Juppé, ça reste quand même un homme d'État assez important, et dans les baromètres d'opinion, c'est une personnalité qui a toujours été assez haute, qui est peu clivante dans l'opinion, qui recueille une certaine bienveillance à gauche, un soutien significatif à droite et au centre. Donc c'est une personnalité qui est quand même assez rassembleuse. Le débat autour de sa légitimité a quand même été soldé au moment où il a participé à l'élection, parce qu'à un moment on le voyait président de la République, au moment de la primaire de la droite et du centre. Donc cette histoire de légitimité et d'honnêteté est relativement soldée dans l'opinion. Ça reste un homme d'État. Après, sa désignation est nécessairement politique, parce que c'est le Conseil constitutionnel, mais on est plutôt sur une figure rassembleuse, du moins dans l'opinion.
On l'a entendu, il a dit « l'envie me quitte » dans un climat général infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux. C'est ce que disent aussi de nombreux élus locaux, des maires qui ne comptent pas se représenter l'année prochaine au municipal. Ils n'ont plus l'envie. Que dire sur cette désaffection à faire de la politique en France?
Oui, c'est vrai que c'est cette question des maires. Il y a une étude du Centre d'études de la vie politique française sur le blues des maires qui est très intéressante, qui explique qu'il y a vraiment une désaffection pour cette carrière de maire, mais qui reste une figure politique de proximité, l'incarnation du pouvoir public pour beaucoup de gens, et des maires finalement qui sont face à un contexte qui est difficile. Il y a une baisse des dotations aux communes, il y a le contexte de cumul des mandats, de renouvellement de la vie politique, de montée de la défiance à l'égard de l'action publique et de réforme territoriale, parce que les mairies se voient privées de certaines compétences qui sont récupérées par les communautés d'agglomération et les intercommunalités.
Et puis dans son discours d'adieu, Alain Juppé, plusieurs fois, s'est revendiqué de l'ancien monde. Finalement, le dégagisme continue.
Alors le dégagisme, justement, si on revient sur cette notion de dégagisme, en 2017, on avait observé un dégagisme qui concernait les personnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été remplacés au nom de renouveler le personnel pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans les études d'opinion, c'est une érosion de ce sentiment qu'en changeant les personnes, on a plus d'efficacité. On a retrouvé dans l'opinion l'idée qu'un personnel politique expert est important. Est-ce que les Français veulent renouveler, c'est plutôt les pratiques politiques et la manière de faire de la politique qui sont vraiment ancien monde, plutôt que les personnes, parce que finalement cette question de renouvellement des personnes est un peu dépassée de ce qu'on nous dit.
Et ce dégagisme touche aussi le nouveau monde, puisque l'autre jour a été annoncé le départ d'Ismaël Émilien de l'Élysée. Cet inconnu du grand public est très proche d'Emmanuel Macron, il appartenait à son noyau dur, qui ont fait sa campagne depuis son début de présidence. Donc il y a une page se tourne là aussi.
Une page se tourne, alors là on est plutôt sur le signe d'une réorganisation au sommet de l'État, ça pourrait constituer la marque du fait que Emmanuel Macron dépasse les fidèles macroniens et la séquence fondatrice de La République en Marche pour ouvrir un peu son champ d'écoute, mais ça ne dit rien de l'impact de ces changements.
Merci pour ces commentaires, Erwan Lestrohan, directeur d'études au département opinion à l'Institut BVA. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin Manon Ombry qui sera l'invité de la rédaction, tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. À noter aussi que mardi politique recevra Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Merci à vous pour votre écoute.